Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blin. Aujourd'hui, je reçois Claude Imhoff. Chers auditeurs, vous le connaissez, il est déjà venu à Radio Grand Ciel et je suis ravie de le recevoir à nouveau pour évoquer sa prochaine exposition « Errance plastique » à la Maison du Tourisme d'Orgères-en-Beauce. Et cela, du 17 mars au 23 juin prochain. Claude Imhoff, bonjour.
Bonjour Christiane Blin.
Alors j'aimerais bien que nous revenions sur votre parcours. Vous étiez professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs et depuis vous avez beaucoup créé. Alors revenons à ce parcours que je dois dire j'apprécie beaucoup.
C'est une grande histoire, hein. Je suis plus tout à fait un jeune homme. J'ai eu un parcours assez classique d'art appliqué et de beaux-arts. Et j'hésitais beaucoup sur quelle voie choisir, parce qu'elles étaient multiples. À 20 ans, j'étais sûr de vouloir être peintre, artiste romantique. Et puis à 25 ans, se sont ouverts d'autres horizons. En particulier, je venais de passer 2 ans en Afrique, dans le cadre du service national et dans la coopération, et j'étais chargé d'animation du Centre culturel français, et d'autre part, il m'a été demandé d'organiser ou d'aménager le musée des arts et traditions populaires de Centrafrique, installé à Bangui.
Oui, vous avez été très marqué par l'Afrique. On retrouve d'ailleurs un peu d'art africain dans vos œuvres.
Peut-être, je crois que ça serait une discussion trop longue.
Oui.
Bien sûr que ce qu'on vit à 20 ans, quand on quitte son pays, je crois que ce sont des choses dont on se souvient tout le temps. Bon, tous les hommes qui ont fait un service militaire, on a la nostalgie. Je pense pas que ce soit de l'armée, c'est de leur jeunesse dont ils ont la nostalgie.
Peut-être. Alors venons-en à votre retour en France.
Alors, de retour en France, il fallait naturellement que je gagne ma vie. Et donc, j'étais équipé pour travailler soit dans les agences d'architecture, soit dans des agences d'aménagement de magasins. C'était l'époque où les prises uniques, les monoprix se développaient à grande vitesse. J'ai travaillé dans le secteur du prise unique et à l'époque, les prises uniques ouvraient un magasin par mois.
Oui.
Alors, je ne sais plus ce qu'il en reste. Mais donc il était relativement facile de trouver un emploi. Et alors, m'a beaucoup impressionné parce que c'est la première fois que j'ai rencontré le commerce, en tout cas dans la constitution de l'espace, de l'ambiance, et donc qui était aussi une façon... d'offrir quelque chose à un consommateur. Bien entendu, de l'offrir avec des intentions...
Qu'en fait, ce n'est pas ça qui vous a passionné, parce que vous êtes passé assez vite dans un autre domaine.
Mais pas tout à fait. Non. Parce que à mon retour d'Afrique, j'hésitais sur beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de travailler dans le département des études qualitatives chez L'Oréal. Et là aussi, j'ai rencontré... des approches marketing, les entretiens, la recherche de motivation. Et tout ceci m'a fait découvrir un univers dont j'ignorais tout. Et m'a conduit à finalement comprendre que tout ce que l'on pouvait faire ou tout ce que l'on pensait créer était un jour destiné à la vente.
Mais comment alors êtes-vous arrivé à concevoir des outils pour que les enfants puissent apprendre plus facilement?
Alors, puisque tout était destiné à la vente, j'ai quand même assez vite tracé une barrière entre une action de création que je qualifierais de purement mercantile, qui consisterait à redessiner pour la énième fois une cafetière ou un tabouret, et en cherchant des secteurs qui me paraissaient ouvert à la création et avec des objectifs qui me paraissaient un peu plus honorables. C'est pourquoi la pédagogie, le système éducatif m'ont fortement marqué. Et c'est comme ça que j'ai fini par entrer en contact avec les éditions Nathan et avec pas mal d'autres par la suite.
Oui, alors peut-être pour nos auditeurs, dites-nous quelques inventions que vous avez pu faire. Parce que c'est quand même, ce sont des inventions quand même.
Oui, de toute façon, la distinction entre invention et création, si on se réfère au Larousse, au Robert, l'invention serait plutôt technique et la création serait plutôt artistique.
Mais vous avez fait les deux alors.
Oui, mais comme toute activité, enfin de ce qu'on appelait le design à l'époque, parce que je crois qu'aujourd'hui ça ne veut plus tout à fait dire la même chose. Mmh. Donc, alors, autrement dit, trouver un objet avec un usage, une forme est compatible avec une industrialisation qui permette de le produire au plus faible coût possible.
Oui.
Alors, pour le vendre peut-être au plus fort prix possible. Mais,
oui.
Mais c'était plus mon affaire.
Alors, vous avez créé, peut-être expliquer d'une façon plus compréhensible ce que vous avez pu faire.
Il y a un produit qui m'a beaucoup aidé sur le plan de la notoriété, petite chose que j'ai inventée dans les années 1980, qui est un plateau d'équilibre sur lequel on se tient debout et qui permet de se balancer d'avant en arrière, de droite à gauche, et qui a été associé à un circuit labyrinthe dans lequel circule une balle.
Oui,
donc,
ça, c'est remarquable.
Ce produit a fini par attirer l'attention et j'ai eu évidemment de grandes difficultés à trouver un industriel prêt à investir. Bon, ça finit par se faire et à partir du moment où j'ai eu ce produit entre les mains, toutes les prises de contact avec de nouveaux industriels étaient plus faciles.
Oui.
Parce que la grande difficulté quand on se trouve dans une situation de création, c'est de rencontrer des entreprises prêtes à investir pour la recherche et le développement.
Alors pour rencontrer Nathan ?
Ah ben Nathan, je suis allé, j'ai forcé les portes et puis un jour on m'a dit oui, je suis rentré, je me suis expliqué et ils ont fini par me confier des recherches qui ça s'est bien passé.
Oui, oui.
Et mais tout ceci.
Il y a que dans tous les cours préparatoires, on s'est servi de.
Surtout dans les écoles maternelles parce que ce qu'on appelle matériel éducatif est en France surtout utilisé dans les écoles maternelles.
Oui. Donc toutes les écoles maternelles ont eu...
Beaucoup moins dans l'école primaire. Oui, oui, beaucoup, oui, oui. Et donc, alors, ce qui m'a conduit à devenir en même temps que créateur, représentant placier, et qui m'a conduit à faire peut-être 50 fois le tour de France, 10 fois le tour d'Europe,
aussi,
deux
ça.
Fois presque le tour du monde. Enfin, le tour du monde de l'époque était qu'il y avait un peu moins de pays industrialisés. La Chine n'était pas encore dans la course. Et donc, alors, ce qui fait que j'ai passé de longues périodes dans des endroits où on rêve d'aller en vacances, mais où j'étais tout seul en train d'essayer de forcer des portes.
Donc ça, pendant combien de temps vous avez fait ça ?
Bon, je l'ai fait en gros de 1975 jusqu'à... ça n'est pas tout à fait terminé.
Ah oui, vous en vendez encore.
Enfin, moi non, mais j'ai encore quelques contacts des entreprises.
Alors, votre autre grande philosophie, c'est de détourner aussi les objets. Et nous vous avons interviewé pour, en particulier, des arrosoirs qui étaient complètement détournés du fait d'arroser. Ce n'était plus des arrosoirs, c'était tout à fait autre chose. Alors, comment vous est venue cette idée ?
Je corrige un peu. Le problème n'est pas de détourner. Le problème, c'est d'attirer l'attention.
Et... Mais en détournant quand même.
Oui, mais c'est en portant un sens, un message sur un objet qui conduise à évoquer des problématiques qui sont présentes et qui demandent des longs discours et des phrases compliquées. Et avec ça, je recherchais à obtenir l'effet que j'admire beaucoup, qu'on trouve dans les dessins d'humour, dans les dessins sans parole.
Oui, parce que je rappelle que vous avez aussi fait une très belle exposition sur les cochons. Parlez-nous en quelques mots des cochons.
L'exposition s'appelle « Toute ressemblance, point de suspension », avec un sous-titre qui est « Mais les cochons ne seraient-ils que ce que nous sommes ?»
Oui.
Bon, et alors, il s'agit d'une série de dessins, des...
Très beaux dessins.
Merci. Oui, de dessins à la plume, et qui toutes comportent des interpellations. Donc...
Un peu de l'humour noir.
Bon, noir...
Enfin, de l'humour.
Oui, plutôt tendre que noir.
Pour certaines.
Peut-être un peu grinçant.
Certaines sont tendres,
oui,
d'autres le sont moins.
Mais on voit, par exemple, un cochon habillé en toréador et avec une petite légende qui dit « L'homme a sa chance ». Et puis, le dessin suivant, c'est un cochon triomphant qui brandit l'oreille du toréador.
Oui.
Et je me suis borné à l'oreille.
Je reconnais toujours là votre humour parce que c'est merveilleux de parler avec vous. On s'amuse toujours. Alors là c'est au frais de l'homme.
Oui, enfin de nous-mêmes. Enfin,
de nous-mêmes.
Bon, et là-dessus, je me suis tranquillement installé dans le flux de tout ce qu'on a depuis la plus haute antiquité, d'histoire où les animaux jouent des rôles.
Oui.
La Fontaine s'en est beaucoup servie, et plus récemment, en 1947, George Orwell, bien connu pour 1984, écrit en 1948, ce même George Orwell, en 1947, a écrit un bouquin qui s'appelle « La ferme des animaux
oui. »,
et dans lequel les cochons, à force d'imiter les hommes, en adoptent les comportements, finissent par se tenir debout, maîtriser le langage, et deviennent à leur tour les maîtres des animaux, et donc ils organisent le monde à leur profit.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Claude Imhoff et nous allons évoquer cette maison du tourisme Cœur de Beauce où justement Claude Imhoff va exposer ses œuvres du 17 mars au 23 juin. Alors quand on voit cette affiche Errance plastique, eh bien on ne peut pas ne pas penser aux arrosoirs qui ont été l'image que nous avons pu voir à Nogent-le-Rotrou lors d'une exposition. Alors j'aimerais bien savoir comment vous est venue cette idée des arrosoirs. Est-ce parce que le plastique dont ils sont faits est à proscrire? Ou au contraire, est-ce que le plastique va être le nouveau matériau du XXIe siècle?
L'exposition que j'avais d'abord rappelée arrosoirs sans retenue, c'est ensuite appelé errance plastique et arrosoirs sans retenue parce que je ne trouvais plus d'arrosoirs à récupérer, à transformer, parce que tous les objets que j'utilise sont des objets qui ne sont plus utilisables, c'est-à-dire ils sont percés, fendus, fuyants, et donc ils ne devraient plus avoir le droit au nom d'arrosoir, mais seulement au titre d'apparence d'arrosoir.
Oui, donc vous allez détourner en quelque sorte l'arrosoir de son but premier.
Mais ne pouvant être utilisé pour arroser, il est déjà détourné.
Oui.
Il est devenu inutile, il est devenu déchet. Or, c'est un objet fabriqué en matière plastique, en polyéthylène. C'est environ 700 à 800 grammes de polyéthylène. Un arrosoir de ce type dans le commerce coûte entre 2,50 euros et 5 euros. Donc, c'est un coût relativement faible. Ce qui fait que quand un arrosoir est un peu abîmé, eh bien, on s'en sépare sans aucune émotion et en toute tranquillité, on le met à la poubelle
pour en acheter un autre.
Et il deviendra ce qu'il deviendra. Et alors donc, je ne trouvais plus d'arrosoir. Je crois que j'en ai fait une vingtaine. Et puis voilà, chez moi, il n'y en avait plus. Dans mon entourage, il n'y en avait plus. Alors, tous ceux qui me connaissaient m'en ont donné, mais à un moment, ça s'est tari. Donc, eh bien, je me suis mis à utiliser des bidons. Et il y a énormément de produits qui sont vendus qui contiennent du carburant, de l'eau de Javel, des agents démoussants qui sont vendus.
Alors là, vous avez eu plusieurs couleurs.
Oui, alors il y avait des couleurs différentes et donc ces objets ont tous sont tous des objets. C'est environ aussi 700 à 800 grammes de polyéthylène et naturellement les magasins qui les vendent ne les reprennent pas. Au passage, ils vendent les mêmes bidons neufs en polyéthylène. Bon, en polyéthylène qualité alimentaire, c'est-à-dire que c'est un peu plus cher. Alors, un bidon avec du carburant doit coûter autour de 25 euros plein.
Oui.
Et puis, on ne peut pas le rendre. Et un bidon neuf vide doit coûter 20 euros. Mais oui. Quand il est vide du carburant, quand on le ramène chez le distributeur, on nous dit gentiment qu'ils ne sont pas consignés. Et puis, si on insiste, ça tourne au vinaigre.
Ah oui.
Bon, donc,
vous avez dit qu'il faut faire quelque chose.
J'ai fait l'expérience pour voir. Mais voilà, donc... j'ai fait faire remarquer... Dans les grandes enseignes où j'ai joué ce petit jeu, mais qu'ils avaient des Smirnoff qui arrivaient pleins et qui repartaient vides.
Ah,
et
oui.
Donc, partant vides, ils pourraient aussi emmener les bidons vides. Mmh. Ah, mais c'est pas moi. Or, la raison est simple, c'est que quand on achète le produit, eh bien, on achète son contenu, du shampoing, du pétrole, que sais-je, mais on achète aussi le contenant. Mmh. Et donc, juridiquement, on en devient propriétaire et donc responsable.
Ah oui. Et donc on doit le jeter soi-même si on veut le jeter.
Alors voilà, si on veut s'en débarrasser, eh bien, il faut rechercher des chemins vertueux si on les trouve avec certaines déchetteries ou un peu moins vertueux et puis on fait pas vu, pas pris et puis on s'en débarrasse comme on peut. C'est pas très satisfaisant. Or, le recyclage des polyéthylènes en particulier est parfaitement maîtrisé. Le problème, c'est plus la récupération, le nettoyage, les regroupements, les transports. Et donc, ça constitue une main-d'œuvre, que personne ne veut bien payer, et donc on demande finalement au consommateur final d'assumer l'ensemble. Et le consommateur final se trouve en même temps l'usager, l'acheteur, le contribuable et le citoyen.
Oui, mais alors là, on peut dire la même chose pour le verre.
On peut dire
les
la même chose pour le verre. Oui, mais on peut le dire. Moi, j'ai pris les plastiques parce que dans ma vie de création industrielle, j'ai rencontré les plastiques. Et les plastiques sont des produits extraordinaires, sont issus de l'intelligence humaine sur le plan scientifique et technique. Quand on va dans un atelier qui fabrique des arrosoirs ou des produits de ce type, on voit d'un côté des granules qui vont rentrer dans un gros entonnoir, qui vont être poussés dans une machine, on voit plus rien, la mienne vis sans fin qui pousse la matière en même temps qu'on la chauffe, qui devient visqueuse, et qui est libérée brusquement à une température d'autour de 235 degrés, et qui, en quelques secondes, va remplir les cavités du moule.
Oui, on se souvient du film où le pauvre acteur était recouvert de plastique.
Et donc, les plastiques, par exemple, sont des... Sans plastique, on n'a pas d'électricité qui arrive à la maison.
Ah oui.
Les isolants, on n'a pas d'eau non plus. Et on pourrait trouver... peut-être qu'on n'aurait pas de pacemaker et peut-être on va trouver bon nombre de... Donc, les plastiques sont des matériaux tout à fait respectables. Le problème, c'est que permettant de produire en grande série et à faible coût, eh bien... une certaine facilité commerciale conduit à essayer de vendre le maximum de choses et aux frontières basses de la qualité et de l'utilité.
Oui, si bien qu'en fait, et ça c'est un grand problème, ce sont les déchets, quoi.
Alors, ils deviennent
des déchets.
Et c'est lié, bien entendu, à nos mauvaises habitudes. Mais nos mauvaises habitudes, elles n'existaient pas à l'époque de nos grands-parents.
Oui,
on ne jetait rien. Et un couteau de poche pour un paysan pouvait faire une vie.
Oui, enfin, les objets en fer, aussi, c'était compliqué de s'en débarrasser.
Oui, mais ça se récupérait, le fer, on savait le récupérer. Je me rappelle que, gamin, comme beaucoup, j'étais scout, et que les scouts récupéraient un peu d'argent avec... Chaque patrouille scout disposait d'une petite charrette à bras, et on faisait le tour des quartiers, on récupérait les ferrailles chez les particuliers, et on allait les revendre chez les ferrailleurs.
Oui.
Et donc, il y avait l'habitude que rien ne se perd. Et donc, à partir des années 50 ou 60, on est entré dans un autre cycle. On était sûr que la technique, la science permettrait de tout résoudre.
Pas tout.
Non, à l'époque, on le croyait.
Oui.
Comme on l'avait cru en 1900, quand on pensait que la science éradiquerait toutes les maladies et que la richesse du monde était inépuisable. Et comme on allait chercher la main-d'œuvre dans les colonies, c'était aussi une main-d'œuvre qu'on pouvait s'offrir.
Notre intelligence n'est pas encore assez poussée.
Certainement.
Parce que peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on arrivera à
tous les rêves restent ouverts, oui. Alors, bon, donc, en ce qui concerne les arrosoirs, moi, j'ai commencé avec un arrosoir que ma femme avait demandé d'emmener à la déchetterie. Puis, je lui ai dit, tiens, je vais en faire autre chose. Et alors, donc, ben voilà, il y en a un que j'ai transformé, par exemple, en découpant sur ses parois un parapluie, en faisant au-dessus du parapluie des gouttes de pluie. Et donc, ça donnait l'image d'un objet destiné à arroser, qui lui-même se protégeait de l'eau.
Oui.
Donc, alors, c'est une forme de... C'est ce que j'appelle métaphore.
Oui, enfin, c'est vraiment de l'humour, et vous maniez l'humour avec beaucoup de savoir.
C'est de l'humour et qui insiste beaucoup sur l'absurde.
Oui, bah, en général, l'humour, c'est souvent...
On ne va pas ouvrir ce registre-là.
Non.
Ça va être
donc,
trop long.
Effectivement, beaucoup d'arrosoirs vont être transformés grâce à votre imagination, on va dire.
Oui, c'est...
Est-ce que vous avez transformé combien d'arrosoirs pour l'exposition que nous vîmes à Nogent-Rotrou?
Peut-être une vingtaine.
Une vingtaine. Alors, en quelques mots, expliquez-nous ce que sont devenus les arrosoirs. Donc, il y avait l'arroseur arrosé.
Oui, bon, il y en a plusieurs. Il y en a un, par exemple, j'ai découpé un certain nombre de ronds dans les parois de l'arrosoir avec une scie cloche. Et puis, comme je faisais souvent des visites guidées et que j'ai accueilli beaucoup d'enfants, j'ai expliqué que c'était un arrosoir qui était plus pratique pour l'eau gazeuse.
À chaque
fois. Donc, alors, c'est de la blague pour attirer l'attention sur un problème sévère, grave, préoccupant, dont malheureusement, moi, je n'ai pas de je n'ai pas vraiment d'éléments de solution, à part de dire, mais il faut que ce soit tellement gros qu'on se réunisse, qu'on soit indigné, qu'on agisse, oui. Indigné, comme disait monsieur Stéphane Hessel.
Ah oui, ah ben oui.
Indignez-vous, bon voilà, lui il avait sur un plan plus social et humain qu'il a bien fait partager, et je pense que à notre insu, on est très indifférent des traces que l'on laisse.
Alors par exemple, quand vous avez fait cette exposition à Nogent-Rotrou, est-ce que la municipalité s'est dit, mais oui, il faudrait qu'on essaie aussi chacun de faire quelque chose.
Mais j'ai pas fait d'expo sur à Nogent-Rotrou. Cette expo a eu lieu au parc du Perche.
Oui, au parc du Perche. Et vous avez ressenti que les gens comprenaient.
Mais je n'ai rencontré que des gens, et lui y compris, convaincus du. Convaincu de l'importance du problème, et qui me rappelait avec plus ou moins de gentillesse ou de condescendance que j'étais pas le premier, etc. Oui. Ce dont je voulais bien convenir. Mais alors, par exemple, à l'intention des élus, et quelque oui. chose que j'avais fait pour cela, j'ai découpé des bidons sur lesquels, en forme de main. C'est-à-dire que le bidon a sa forme, mais il y a des mains qui en sortaient. Et ces bidons ont des poignées, donc j'ai appelé l'ensemble poignée de main, donc un dans chaque main. Et j'ai dit que c'était un produit destiné aux candidats aux élections. Qui, à l'occasion des bains de foule, un bidon dans chaque main leur permettait d'avoir 12 contacts au lieu de 2.
Écoutez, on ne peut pas s'empêcher de rire, et c'est pour ça que j'incite nos auditeurs à aller voir cette exposition Errance plastique à la Maison du Tourisme Cœur de Beauce entre le 17 mars et le 23 juin. C'est à Orgères en Beauce. Est-ce qu'il faut retenir des places? Comment ça se passe?
Je ne crois pas.
L'inauguration aura lieu
le 17 mars.
17 mars. Eh bien, chers amis auditeurs, je vous demande de nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Claudie Moff et bravo.
Merci
Christiane. Chaque fois, votre humour nous fait toujours sourire. Revenez souvent.